prophétique. Vous savez, tous les deux ans, là, depuis deux fois, on fait une formation prophétique sur plusieurs semaines. Donc, si vous l'avez loupé, eh ben, venez au week-end, effectivement. Vous aurez un condensé par l'auteur de cette formation. Donc, il paraît qu'il faut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Donc, vous serez encore plus gâtés. Voilà. Merci à l'équipe de Louange. Merci, David, d'avoir choisi comme chant aussi « Il est ma paix ». Ça m'a fait du bien de chanter ce chant, ce vieux chant. Mes enfants se sont endormis toute leur enfance, mes quatre enfants, avec ce chant. Je ne sais pas si ça t'a rappelé des choses, Thomas. Non, tu ne te souviens plus, tu étais trop bébé. Mais c'était ce chant que je chantais. Il est ma paix, il a brisé tous les autres. Alors, deux fois sur trois, c'était moi qui m'endormais avant eux. Mais c'était bon de le chanter. Tu peux afficher le PowerPoint, s'il te plaît. Tu l'as ? Super. Alors, on est dans un temps particulier de l'année. On vient de célébrer Pâques. On vient de nous souvenir de l'événement fondateur que sont la mort et la résurrection de Jésus. On a célébré ça le week-end dernier, dimanche dernier. Et puis, on pourrait penser que tout s'arrête là, finalement. On passe à autre chose. Allez, hop, ah oui, oh, Pâques, c'était la semaine dernière. Puis, déjà, il s'est passé tellement de choses. À l'année prochaine. Peut-être à Noël, hein, pour la fête, mais sinon à l'année prochaine. En fait, non, tout ne s'arrête pas là. Tout ne s'arrête pas à Pâques. Et j'allais dire, tout commence, oui, quelque part, mais tout ne s'arrête pas en tout cas. Et ce n'est pas simplement une page qu'on tourne. Voilà, c'était le week-end dernier, on passe à autre chose. Et y a une suite. Et cette suite, en fait, elle est indispensable, indispensable pour nos vies chrétiennes. Alors, j'essaie de trouver un titre à mes messages en général, notamment pour mettre sur le site quand on les met en ligne. Et donc, au départ, je voulais choisir ce titre, Le conte de l'Homère. Mais je me suis dit que peut-être ça ne vous évoquerait pas grand-chose. Alors, je me suis dit qu'effectivement, peut-être ça vous évoquerait ça. Mais donc, on ne fera pas un cours de mathématiques ce matin. On va prendre la parole de Dieu et on va lire dans la parole de Dieu. Donc, je vous invite à prendre, je vais l'afficher, mais je vous invite à prendre votre Bible dans le Deutéronome. Le Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome, donc au chapitre 16. Alors, c'est un condensé. Hein, là où j'ai mis des points de suspension, c'est que je saute hein, des passages. Donc, Deutéronome, chapitre 16, à partir d'une partie du verset 1. Célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, pain azim. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Tu feras cuire la victime, l'agneau, et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu compteras 7 semaines, 7 fois 7. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Le Lévitique, qui est un texte parallèle, dit lui, vous compterez 50 jours. 7 semaines, 7 fois 7, 49, ou vous compterez 50 jours. Puis, tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Alors, en ayant lu ce texte, je me suis dit, il y a un titre peut-être qui parlera un peu plus. Hein, je l'ai affiché, c'est « De Pâques à Pentecôte ». Vous avez vu que sur la slide, j'ai mis deux couleurs différentes, justement, pour montrer que ce texte nous amène de Pâques, verset 1, à Pentecôte, verset 10. Alors, en fait, c'est écrit là dans le texte « La fête des semaines ». En hébreu, c'est « Shavuot ». « Shavuot », c'est « les semaines » en hébreu. Et en fait, c'est la fête des semaines, mais c'est synonyme de Pentecôte. La fête des semaines, c'est quand on compte ce qu'il y a en rouge, 7 semaines. Tu comptes 7 semaines et donc tu tombes sur la fête des semaines parce que tu as compté en semaines. Et Pentecôte, c'est si tu comptes en jours, c'est-à-dire 50 jours. Hein, Penta, Pentecôte, ça veut dire en fait 5 fois 10 jours. Donc si tu comptes en jours, tu dis c'est Pentecôte. Si tu comptes en semaines, tu dis c'est Shavuot. Voilà. Et donc on voit là un lien direct entre Pâques et Pentecôte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que concernant Pâques et Pentecôte, ce sont deux fêtes de l'Éternel qui sont indissociables. Et Dieu, et ça, les chrétiens n'ont pas toujours bien réalisé, mais elles sont vraiment indissociables. Et Dieu, dans la parole de Dieu, pour nous montrer que ces deux fêtes sont indissociables et qu'elles sont liées, il a demandé au peuple d'Israël de compter les jours. Alors, en fait, avec notre esprit grec cartésien, j'allais dire, nous, on aurait tendance à croire, ah oui, donc Dieu, il y a Pâques, et puis donc il faut compter cette semaine ou 50 jours, et puis on tombe sur Pentecôte, comme si c'était un calcul. En fait, ce n'est pas exactement ça que demande la parole. L'hébreu demande d'énumérer les nombres, les jours, en fait. Non pas de les compter pour tomber sur la bonne date, ce n'est pas qu'une question pragmatique de tomber sur la bonne date, c'est une question d'énumérer les jours. Et donc, voilà, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Et donc, ce passage, en fait, il nous parle, vous savez, Pâques, c'est le moment où le peuple hébreu, esclave dans l'Égypte, va être libéré. Vous vous souvenez, ça a été partagé la semaine dernière, le sang sur les linteaux, l'ange de destruction qui passe, mais Israël est protégé, Israël est libéré, passe la mer Rouge. On en a parlé ce matin dans la louange et puis dans la prophétie, je crois. Et Israël commence sa pérégrination. Alors, j'ai trouvé une carte où on ne se voit pas trop mal. Donc, ça doit marcher. Ouais. Donc, vous voyez le petit point rouge. Les Hébreux étaient là en esclavage. Ils sont partis. Le Nil est ici, c'est l'Égypte. Ils sont partis de Ramsès en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge ici. Il y a eu Soukhot, et puis il y a tout ce cheminement où ils descendent pour aller au mont Sinaï. Puis ensuite, ils vont remonter vers la terre promise, la terre d'Israël. Et c'est là, en fait, où ils vont galérer pendant 40 ans. Hein, vous voyez la distance ? Ils vont galérer pendant 40 ans, là, dans le désert, à tourner en rond, etc., à cause de leur désobéissance, etc. Je réfléchis, oui. Donc, oups, c'est ça que je veux. Donc, en fait, la Bible nous dit que les Hébreux sont donc partis de Ramsès, ont traversé la mer Rouge, etc. Et qu'en fait, pour arriver au mont Sinaï, ils ont mis 50 jours. 50 jours, cette semaine. Hein, donc, un peu moins de 2 mois pour arriver de Ramsès au mont Sinaï. Donc, vous voyez la distance et voyez là, 50 jours pour faire ça, 40 ans pour faire ça. Vous voyez un petit peu la proportion, combien ça a été la galère. Et alors, je reviens à ce que je disais, maintenant que vous avez ça sous les yeux, puisque Dieu a dit, quand ils étaient en Israël, tu compteras 50 jours, Pentecôte, tu compteras 7 semaines jusque-là, pour arriver là. Et donc, je disais, ce n'est pas un calcul pour arriver sur la bonne date et pas se tromper de date. C'est un calcul qu'il faut énumérer chaque jour. Et en fait, de tout temps, c'est-à-dire depuis 3500 ans, les Hébreux, les Israélites, comptent depuis Pâques jusqu'à Pentecôte, et ça s'appelle le compte de l'Omer. Voilà pourquoi c'était le titre, l'Omer. Alors pourquoi l'Omer ? Parce qu'en fait, dans la loi, on n'a pas tout lu, ce serait trop long, mais dans la loi, le lendemain de Pâques, les Israélites devaient prendre un omer. Un omer, c'est une quantité, ça fait 2 ou 3 litres, quelque chose comme ça en quantité, de blé. En fait, une gerbe de blé ou une quantité d'un omer, et devaient l'offrir à Dieu. Ça, c'était au moment de Pâques, le lendemain de la Pâque. Et à partir de ce jour-là, ils comptaient. Jour 1 de l'omer, jour 2 de l'omer, jour 3 de l'omer, jour 4 de l'omer, jour 5 de l'omer, jusqu'à 49, et le 50e, c'était Pentecôte. C'était la fête des semaines. Et donc, encore aujourd'hui, je disais, les Israélites, c'est en ce moment, puisque Pentecôte, c'est, en plus, Pâques, c'était la semaine dernière, c'est tombé en même temps, cette année, la Pâque juive et Pâques chrétienne. Donc, cette semaine, ben voilà, il y a ce genre de compte. Donc, et c'est pas simplement compter comme ça sur ses doigts, on en est à quel jour où je coche sur un calendrier. Il y a toute une prière, il y a un sens qui est donné à ce décompte, cette énumération des jours jusqu'à Pentecôte. Donc ça, c'est la prière, j'ai noté, hein, Baruch Atah, je ne vais pas vous la lire en hébreu, mais bon. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a commandé le compte du Homer. Et ensuite, ils disent aujourd'hui et 8 jours, qui sont une semaine et un jour du Homer. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est en fait le 9e jour. Donc aujourd'hui, ils vont dire aujourd'hui et 9 jours, qui sont une semaine et 2 jours du Homer. Le 15e jour, ils vont dire aujourd'hui et 15 jours, soit 2 semaines et 1 jour, etc. Et ils font ça pendant 49 jours. C'est quoi le sens de tout ça ? En fait, Dieu veut montrer que Pâques sans Pentecôte, c'est pas complet. Enfin, c'est pas complet. Il manque quelque chose. Jésus a tout accompli ou la Pâque a tout accompli. Ils ont été libérés. Mais Pentecôte est le complément obligé de Pâques. Et Pentecôte sans Pâques, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à Pâques, on le sait, l'agneau qui a été sacrifié, le sang sur les montants, la délivrance, la libération, la traversée de la mer Rouge. Donc, Pâques, c'est vraiment la délivrance, le salut, la libération. C'est la création d'un peuple nouveau qui naît vraiment ce jour-là en tant que peuple d'Israël. Et Dieu a voulu lier par un lien, c'est comme si, ces jours qu'on énumère, c'est comme s'il y avait une corde entre Pâques et Pentecôte. Si tu bouges Pâques, tu bouges Pentecôte, puisque c'est 49-50 jours après. Comprenez ? Voyez dans votre esprit ce lien, il y a vraiment un lien, c'est attaché. Et on ne peut pas séparer Pâques et Pentecôte. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot, à Pentecôte ? Donc j'ai dit, on revient peut-être sur la carte juste un instant, en fait les Hébreux sont arrivés au mont Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï ? Moïse est monté sur la montagne, il y avait des éclairs, il y avait tremblement de terre, son et lumière comme jamais il y en a eu sur la terre. Et Dieu a donné la Torah, Dieu a donné la loi à Moïse, Dieu a donné la parole de Dieu à Moïse au mont Sinaï. Et donc, la délivrance d'Égypte, le salut grâce au sang d'un agneau, sans la révélation de la parole de Dieu, bibliquement, ça n'a pas de sens. La délivrance est liée à la parole de Dieu, à la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, elle est liée à la délivrance. En fait, j'ai essayé de faire et on va... Non, avant de faire, on va lire un autre texte. Je vous invite à prendre la Bible. De nouveau, on va lire dans le livre des Actes. Donc là, je vous parlais d'événements qui se sont passés il y a environ 3500 ans. Là, on approche un peu plus. On est à 2000 ans. Et on va lire dans les Actes. Donc c'est pareil, j'ai fait un espèce de survol un peu, hein. Alors, pour ceux qui entendent le message sur Internet, ce ne sera pas le cas, mais pour vous qui êtes là, vous voyez. Donc, j'ai mis de nouveau en vert certaines choses et en rouge d'autres choses. Et on va en parler. Après qu'il eut, donc, acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, on parle de Jésus bien sûr, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On passe à acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, voyez ce texte qui, pour moi, est un texte vraiment parallèle. C'est le copier-coller, quelque part, du Deutéronome qu'on a lu tout à l'heure. Regardez ces textes, actes 1 et 2. On part de Pâques, après qu'il eut souffert, et on se retrouve à « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit » à Pentecôte. Même cheminement. Et alors ce décompte de l'Homère, où est-ce qu'il est? Eh bien, il est là. Jésus leur recommande de ne pas... Il passe avec eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il est là, les enseigner sur le royaume de Dieu. Il est avec eux, il passe du temps avec eux. Mais ce n'est pas un temps définitif, j'allais dire, c'est un temps d'attente. Il leur recommande de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre. Et qu'est-ce qu'ils font pendant cette attente? Ils prient, ils se mettent en prière. Et ils attendent la promesse. Et cette promesse, quand est-ce qu'elle arrive? Le jour de la Pentecôte. Vous voyez ce texte parallèle avec tout ce temps qui se passe d'attente où là, on ne compte pas les jours. Alors, ils étaient juifs, donc je pense qu'ils comptaient les jours jusqu'à Pentecôte. Et tous les jours, ils disaient jour 8 de l'Homère, une semaine et un jour. Jour 9 de l'Homère, une semaine et deux jours. C'était logique, ça faisait partie de la tradition. Alors ça, on n'en a pas, c'est les rabbins qui ont institué ça après, mais en tout cas, ils comptaient. Dieu avait dit de compter, d'énumérer les jours. Donc d'une façon ou d'une autre, ils les énuméraient. Et puis ils étaient dans la prière. Vous voyez ce parallèle incroyable? Alors j'ai tenté de mettre ça sur un visuel, qu'il faudra peut-être mettre sur le site, là par contre, parce que sinon, ça ne veut plus dire grand-chose pour ceux qui l'écouteront. Un visuel pour essayer de visualiser ces deux parallèles, et vous allez voir combien c'est extraordinaire. Le conte de l'Homère. Alors, on regarde en haut, hein, d'abord. Donc, un petit résumé. Oups. Si, c'est ça. Un petit résumé. Pessah, donc la Pâque, l'agneau qui est sacrifié, là. On offre un Homère de blé, et puis on commence à compter. 7 semaines, 49 jours, donc ça va jusque-là. Hein. Voilà, 49 jours, et on arrive à 50, et c'est Shavuot, la fête des semaines, la Pentecôte, avec le don de la Torah. Voilà. Il faut savoir que cette pérégrination dans le désert, elle ne s'est pas faite pour rien et sans rien. Il s'est passé tout un tas de choses. Vous pouvez le relire dans l'Exode et dans le Deutéronome. Et donc... C'est 7 semaines, c'est 49 jours. Il y a eu notamment 30 jours, dont je ne dirai pas grand-chose. Les 30 premiers jours, c'est les 30 premiers jours où ils descendent de Ramsès jusque dans cette région. Il y a l'épisode juste avant de Élim avec les sources, il y a des sources d'eau. Donc ils sont dans le désert, mais vous voyez, ils longent la mer Rouge. Ils sont dans un désert, mais il y a quand même des sources par endroits. Et puis là, il y a un virage et ils changent de désert, j'allais dire. Ils vont dans ce qu'on appelle le désert de Sin. Le désert de Sin, là, à 30 jours. Et après 30 jours, il y a encore 10 jours avant d'arriver au mont Sinaï et avoir le don de la parole de Dieu. C'est juste après ces 30 jours, dans ces 10 jours-là, que la manne commence à tomber. Vous vous souvenez ? La manne, ce pain qui descend du ciel, qui est donné. Et puis, il y a aussi une organisation qui est faite. C'est juste avant d'arriver au Sinaï que Moïse va organiser. Vous savez que son beau-père, Jéthro, va lui dire « Mais tu vas t'épuiser à gérer ce peuple dans le désert comme ça, c'est fou. Nomme des chefs, nomme des etc. etc. » Vous vous souvenez, il y a tout un tas d'organisations là que Moïse met en place. Et puis, ils arrivent au Sinaï et il y a la révélation de la parole de Dieu. Alors, je vois qu'il y a un petit bug. Mais ça doit être le... Oui, c'est le changement d'ordi, je pense. Alors, c'est pas grave, on va voir quand même. Donc, j'ai fait une comparaison avec ce qu'on a lu dans les Actes. Ah oui, c'est vraiment... Tu peux pas essayer de le corriger. Je pense qu'il faudrait peut-être... raccourcir entre Pâques et Ascension, là. Si tu arrives à raccourcir entre Pâques, voilà. Encore un peu. Ça devrait. Enfin bon, parce que Pentecôte, vous voyez, ça devrait être là-bas. Hein. Bon, enfin, c'est un truc technique. On peut se débrouiller. Merci. Alors, on a Pâques avec Jésus qui meurt, l'agneau. L'agneau qui meurt, comme au-dessus. Et puis on commence, voilà, Jésus ressuscite et Jésus est avec eux pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours, il est là. Ça correspond à cette descente du désert, mais où il y a des sources. Parce qu'il y a les apparitions de Jésus. Jésus n'est pas en continu avec ses disciples, mais il nous est raconté plusieurs de ses apparitions, comme des sources dans le désert. D'accord ? Et puis, à 30 jours après, Jésus est enlevé. Jésus monte au ciel, on va fêter l'ascension dans quelques semaines. Jésus monte au ciel, il rejoint son Père. Alors, un petit parallèle que je trouve très intéressant, c'est que quand Jésus monte au ciel et est enlevé, qu'il n'y a plus les sources, finalement. Jésus n'est plus là, donc il n'y a plus la source. Et donc le peuple, lui, rentre dans le désert de Sin, qui est un désert sans source. Et la manne commence à tomber. Jésus monte au ciel et le pain du ciel descend. Vous voyez ce parallèle extraordinaire ? Et il y a une organisation qui est faite. Et là, Pierre se lève et dit, bon, Judas nous a quittés, il y a un problème. On était 12, on se retrouve 11. Et ils font de nouveau une organisation. Et ils tirent au sort pour trouver, hein, selon certains critères, etc., Matthias. Le 12e qui remplace Judas, une organisation. Et pendant ces 10 jours-là qui restent, ils sont dans la prière. Ils sont dans la prière, ils sont dans l'attente, ils sont dans le compte, j'allais dire, jusqu'à quand ? Ben jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, puisque Jésus leur a dit, ne partez pas de Jérusalem, attendez. Attendez, ça va arriver, il va se passer quelque chose. Ce que le Père a promis, et comme par hasard, ce que le Père a promis descend le 50e jour. Le jour de Pentecôte. Et qu'est-ce qui descend ? C'est le Saint-Esprit, c'est le don de l'Esprit, et ils se mettent à parler en d'autres langues, etc. En étudiant ça, j'ai trouvé ça génial. On a un copier-coller entre Deutéronome et Actes, entre l'œuvre de Dieu dans le peuple d'Israël et l'œuvre de Dieu au travers de Jésus pour le monde entier. C'est beau, hein ? Vous ne trouvez pas ça beau ? Moi, ça m'émerveille, la parole de Dieu, c'est incroyable. En regardant ça, c'est fou, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour moi, plein de choses. Ça veut dire d'abord que la révélation de Dieu, elle est extraordinaire, de la Genèse à l'Apocalypse. et qu'il n'y a pas de différence vraie entre ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que j'appelle les écrits hébraïques, et ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qui sont en fait les écrits apostoliques. C'est la même parole. Il n'y a qu'une Bible, il n'y a qu'une parole. Il n'y a qu'une parole. C'est la même révélation. Ce qu'on peut en tirer aussi, c'est que tout ça, la Pâque, aboutit au don de la parole de Dieu, des Écritures, et que Pâques, avec Jésus, aboutit à Pentecôte, au don de l'Esprit. Et je crois que si on veut être un chrétien équilibré, c'est là où ça nous parle pour nous chaque jour, c'est que si on veut être un chrétien équilibré, on a besoin de toute la révélation de Dieu. On a besoin, parce que Dieu a mis le paquet, j'allais dire, pour faire descendre la Torah. Il a sorti son peuple d'Égypte. Vous vous souvenez les plaies, vous vous souvenez toute l'histoire, la mer qui s'ouvre, enfin des miracles et des événements incroyables. Comme je vous disais, sur le mont Sinaï, le son et lumière, fou quoi. Le peuple tout tremblant devant ce qu'il voit, il se dit, mais Moïse, il va être grillé comme un, je sais pas quoi, au barbecue là. Non, Moïse redescend avec les tables de la loi gravées par le nom de Dieu, par le doigt de Dieu. Incroyable. Donc Dieu met le paquet pour révéler sa parole. Et Dieu met le paquet aussi pour pouvoir faire descendre l'Esprit. Parce que pour pouvoir recevoir l'Esprit, eh ben, il va mettre le paquet, il va donner son Fils, il va donner Jésus. Il va donner Jésus. Il va faire des miracles incroyables. Il va le ressusciter des morts. Jésus va être là avec eux. Il va monter au ciel. Vous imaginez les disciples ? Oh Jésus ! T'as respiré trop d'hélium. Arrête, reste avec nous. Déjà, t'es parti une fois. Reste. Non. Parce que si je monte, le pain qui descend du ciel va venir. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, on a besoin de ces deux révélations, de cette unique révélation en double. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et dans nos vies, l'Écriture, c'est très important. Et la vie de l'Esprit, c'est très important. Et vous comprenez, on comprend mieux pourquoi j'ai fait ce lien-là entre Pâques et Pentecôte. Et pourquoi c'est complètement inséparable. Et pourquoi la semaine dernière on a fêté Pâques, on ne devrait pas vite oublier, ah oui c'était Pâques, ça y est, on passe à autre chose. Non, 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 oui on passe à autre chose, mais il y a une corde tendue qui nous amène à Pentecôte. Dans quelques jours, on a dans une quarantaine de jours, on a Pâques, on a Pentecôte, qui va être vraiment la célébration de la descente de l'Esprit. Et je crois que ça peut nous parler d'abord des merveilles des Écritures, et qu'on peut mettre notre foi dans la Bible, parce qu'il n'y a pas de hasard, tout est vrai, tout est solide, tout est fiable. C'est vraiment extraordinaire, la parole de Dieu. Mais aussi, en étant encouragé dans nos vies, à vraiment creuser cette parole et à creuser la vie de l'Esprit, à vivre par l'Esprit. C'est pour ça que quand on fait un enseignement des études bibliques, c'est hyper important. Venez quand il y a des études bibliques. 3 points de suspension. Alors c'est vrai qu'on est charismatique. C'est vrai qu'il y aura peut-être plus de monde au week-end prophétique que si on faisait un week-end d'études bibliques. Mais pourtant, ne privilégions pas l'un par rapport à l'autre ou l'autre par rapport à l'un. Tout est lié, tout est la même chose. Vous savez que la prophétie, le don de l'esprit, c'est uniquement lié à la parole écrite. Jésus l'a dit, vous recevrez ce que le Père a promis. Où est-ce qu'il l'avait promis ? Dans les Écritures. Jésus n'a pas arrêté de rappeler tout le temps, selon les Écritures, selon les Écritures, selon les Écritures. Quand il était avec les disciples d'Emmaüs, après sa résurrection, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc l'esprit est lié à l'Écriture, et l'Écriture est liée à l'esprit. On ne peut pas les dissocier non plus. On ne peut pas être fort, enfin, on ne devrait pas être fort dans la parole de Dieu et dans la connaissance de la Bible, et pas fort dans la vie de l'esprit, ou inversement. quelqu'un qui a ou qui se dit avoir un don prophétique, un ministère prophétique, qui n'est pas enraciné dans les Écritures, oups. Tellement important pour nos vies de nous enraciner. Apprenons l'Écriture, étudions l'Écriture, soyons aux études bibliques, soyons au week-end prophétique. Oui, amen. Parce qu'on peut être comme ça des chrétiens équilibrés, solides, et pas ébranlés facilement. Pas ébranlés facilement dans notre foi par les épreuves et par toutes les difficultés qu'on peut avoir. La parole est super. Ne séparons pas Pâques de Pentecôte. Autant on a célébré Pâques, autant je pense que Pentecôte, c'est quelque chose de super important. Alors, la fête, oui, comme un rappel, mais notre Pentecôte. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit parmi nous. Il faut qu'on prie, il faut qu'on passe du temps pour que vous soyez remplis de l'Esprit. Il y a peut-être des gens qui ne parlent pas en langue parmi nous, qui n'ont pas l'habitude. Moi, je vous dis, pratiquez le parler en langue. Parler en langue est hyper, hyper important. On dit que c'est le plus petit de tous les dons. Oui, quelque part. Et Paul dit, je voudrais que vous soyez tous comme moi à parler sans arrêt en langue. Donc vraiment, je vous encourage, pensez-y, remémorez-vous, parlez en langue dans votre culte personnel, quand vous êtes en voiture, quand vous avez un souci, quand vous priez en langue. Puis partageons la vie de l'esprit aussi, les dons de l'esprit, la prophétie, la guérison. On va avoir tout un week-end encore sur la guérison. Tous ces dons, c'est tellement important. Voilà. Et ce n'est pas important parce que ça nous plaît, c'est pas parce que ça nous fait plaisir que c'est beau, qu'il y a des guérisons et que ça nous fait... voilà. Moi, j'en ai eu 3, toi, t'en as eu 2. C'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout, on le sait bien. C'est parce que c'est le plan de Dieu de toute éternité. Et depuis 3500 ans, et bien avant, c'était le plan de Dieu de rétablir toute chose en Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. Seigneur, merci pour les merveilles de ta parole. Merci pour les merveilles de tes miracles. Merci pour les merveilles de ton plan éternel, ton dessein éternel qui s'accomplit dans ton peuple. Merci pour tes desseins qui s'accomplissent pour Israël. Merci pour tes desseins qui s'accomplissent pour l'Église. Merci parce que tu réunis tout en tous, Seigneur. Tu nous réunis tous plutôt en Christ. Seigneur, merci parce que tu m'as appelé, tu as appelé mon frère, ma sœur, à aimer tes Écritures, à aimer la révélation de tes paroles qui nous éclairent, à aimer l'Esprit qui nous anime. Seigneur, merci parce que nous sommes un. Nous sommes un en esprit. Nous sommes un parce que un dans ta parole. Seigneur, tu veux réunir vraiment toutes choses en Christ. Et je te demande vraiment de nous interpeller les uns et les autres dans les jours, les semaines qui viennent par rapport à notre relation aux Écritures. Seigneur, si on est un nouveau chrétien, eh bien, il faut passer du temps pour s'enraciner dans les Écritures. Si on est un vieux chrétien, ancien, de longue date, eh bien, il faut revenir aux Écritures et découvrir les autres facettes qu'on n'a pas encore trouvées. Et Seigneur, je te prie de nous interpeller, de m'interpeller, de nous interpeller, d'interpeller mon frère, ma sœur, sur la vie de l'Esprit, sur la pratique du parler en langue et des autres dons. Saint-Esprit, tu es avec nous tous les jours. Tu es cette manne qui est descendue du ciel dans notre désert. Et Seigneur, on est encore dans un désert. Ce monde est encore un désert, mais nous avons la manne qui descend du ciel. Nous avons ce rocher qui donne de l'eau et qui nous abreuve. Merci de pouvoir nous nourrir, Seigneur, de toi. Merci de pouvoir nous abreuver de toi. Au nom de Jésus. Amen.
Merci, Joël.